Bonjour à tous d'avoir répondu présent pour venir échanger autour de nos écrans pour ces états généraux du droit à la fête. Donc aujourd'hui, Haute Fidélité, en partenariat avec le Festival Barbare qui porte ces états généraux du droit à la fête, organise cette discussion autour des cafés-concerts. Peut-être un petit mot pour replanter le contexte. Donc, Haute Fidélité, c'est le pôle régional des musiques actuelles en Hauts-de-France. Le festival Culture Barbare, une de nos intervenantes vous en dira un mot plus détaillé. Donc, le festival MUT se transforme cette année en états généraux du droit à la fête. Donc, des discussions et des débats autour de la fête et du droit de la faire auront lieu. Ont lieu cette semaine à l'échelle nationale. Et nous, ce qui nous, avec Haute Fidélité, on a choisi de vous inviter à discuter autour de la thématique des cafés-concerts, qui sont des lieux de fête qui nous tiennent à cœur. Et on avait envie de donner la parole à des acteurs et des actrices qui gravitent autour de cette activité des cafés-concerts. Je vais vous laisser vous présenter par la suite. L'idée en fait de cette discussion, pour rappel, c'est de dégager un état des lieux de ce qui existe, de parler évidemment de la crise sanitaire Covid et aussi de se tourner vers les perspectives qui vont se dessiner après. L'idée de cette démarche, c'est aussi de rassembler des propositions à faire remonter pour constituer un livre blanc à l'échelle nationale qui sera remis à l'Assemblée nationale en janvier. Voilà. Donc vraiment, l'idée, c'est de donner la parole aux acteurs de terrain autour de cette thématique du droit à la fête. Peut-être on commence par vous présenter, Camille, si tu veux commencer en tant que avec ta double casquette, Festival Barbare et puis aussi gérante d'un café-concert.
Ça marche. Donc, moi, c'est Camille. Je suis l'ancienne gérante du café Damsay, rue des Bouchers à Lille. Et je suis présidente Nord-Pas-de-Calais du collectif Culture Barbare. Voilà. Collectif Culture Barbare, c'est un collectif qui fédère des cafés culture sur toute la France. Donc, on est 500. Ça existe depuis 20 ans. Et on est une des premières scènes de France après la fête de la musique, quand on fait le festival Culture Barbare, justement, sauf cette année. Voilà. Ça te va?
Super, merci beaucoup. Peut-être on continue avec Seb.
Salut, Seb, co-gérant du Café Disquaire rue Colbert à Lille et co-gérant aussi de la Bulle Café, Maison Folie Moulin. Voilà.
Merci. Qui veut prendre la suite? Ouais.
Donc moi c'est Max, le patron du musical Café Culture à Fives. Voilà, on essaye de faire vivre, faire bouger le quartier, faire proposer un maximum de choses différentes, quoi, dans les animations, dans le côté ludique, dans le côté live évidemment, sous toutes ses formes. Et voilà, et puis c'est parti du collectif Culture Barbare aussi depuis 10 ans maintenant. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire.
Ok, et autour de la table, on n'a pas seulement des gérants de café-concert, on a aussi Marianne et Nico. Je vous laisse vous présenter tous les deux.
Eh ben, moi, je fais partie de plusieurs groupes. J'ai un solo qui s'appelle Seul Tourbe, un solo de musique expérimentale. Je fais partie des Cousines Machines, un duo burlesque déjanté. Des auto-tamponneuses, on fait de la noise avec des plasticiennes, on fait des impressions en direct. Et puis la blague, de la musique festive, et puis je faisais partie du CU avant, le collectif de ukulélé lillois. Voilà, et donc ça fait bien 10-15 ans que j'arpente les différents bars, et notamment les bars des gens qui sont présents ici.
Nico.
Donc moi c'est Nicolas, je m'occupe d'une association qui s'appelle Abon Productions avec laquelle on organise, on programme, on produit des concerts depuis 10 ans. Et voilà, moi-même dans mon histoire, j'ai commencé à programmer dans les cafés-concerts, donc ça fait donc partie de ma vie de programmateur. Et le dernier concert en date, c'était chez Seb. Donc voilà, encore en lien avec les cafés-concerts.
Ok, merci. Et ben voilà, les présentations sont faites. Donc vous tous, vous avez vous évoluez plutôt dans la métropole lilloise. Vu les échéances pour organiser ces temps de parole, on a plutôt commencé pour cette première étape de discussion par s'adresser à réfléchir à l'échelle de la métropole lilloise. Peut-être pour un peu entrer dans ce qui nous anime, dans ce qui anime la discussion, j'avais envie de vous poser une question. Peut-être chacun à votre tour donner pour vous, qu'est-ce que c'est un café-concert aujourd'hui? Chacun à votre posture. J'imagine que c'est des visions différentes. Qui veut commencer?
Moi, je trouve, je trouve que le café-concert, d'ailleurs, on en parlera peut-être dans les craintes plus tard, le café-concert, ça permet quand même d'avoir un panel extrêmement large de programmation. Et on avait la chance, Ali, d'avoir cette richesse-là et d'avoir une programmation large, hebdomadaire, variée. Et c'est vrai que, moi, je crois que c'est avant ça. C'est d'abord, avant tout, c'est ça. C'est une variation de programmation, de richesse, de pluralité. Et voilà. Et puis, c'est des lieux de vie. Et pour les musiciens, il faut qu'ils soient vus. Et voilà. Donc, ça avait cette importance-là capitale pour eux, quoi.
Du coup, Nico, tu parles de diversité des propositions, et c'est vrai quand on a préparé cette rencontre avec Haute Fidélité, on s'est rendu compte en effet que chaque café concert était unique parce qu'il avait un projet très personnel et très une identité très à lui. On peut commencer par voir un petit peu pour toi, Seb, ce que c'est un café-concert, parce qu'en plus tu travailles sur deux lieux différents qui sont très différents l'un de l'autre, quoi.
Tout à fait. Un café-concert, pour moi c'est un café culturel, je préfère parler de ça que café-concert, parce que je pense qu'on est des lieux de culture. On reste dans tous les cas des bars, des lieux de rencontre, des lieux de convivialité autour d'un thème qui est la culture dans tous les sens du terme, et là on parle du concert. Je rejoins Nico sur cette programmation éclectique. Je pense que le café-concert est aussi un lieu pour pouvoir avoir des artistes indés qui n'ont pas accès, je pense, à d'autres scènes type Smack et compagnie, puisque dans leur parcours, ils n'en sont pas encore là. Ça, c'est plus pour le café disquaire. C'est vrai qu'au niveau de la bulle, là, on est un peu différent. On est plus sur on est quasiment une toute petite smack, donc c'est plus difficile, c'est pas le thème là, hein, mais voilà, c'est autre chose, c'est complètement autre chose avec une autre réalité. Voilà, pour moi, l'essence même du café-concert reste quand même le principe même du café, culturel, convivialité, enfin ces mots-là sont importants, avec, je pense, pour la plupart des patrons de café-concert, des passionnés déjà avant tout, et un public qui est plutôt intéressant, qui est passionné aussi de musique et qui est dans une démarche assez active par rapport à ça.
Camille, toi, avec le DAMC et du coup aussi avec ta vision culture barbare qui est du coup plutôt régionale et qui est beaucoup plus large que de juste voir ton projet, le projet qui était le DAMC pour toi. Qu'est-ce que tu vois, toi, comment tu vois cette diversité de cafés culturels et cafés concerts?
Je crois que Seb et Nico, ils ont tout dit. Les cafés culture, c'est lien social, c'est mixité, c'est éclectisme. Enfin voilà, c'est tout ça, quoi. Et puis c'est première scène pour les petits groupes qui débutent aussi, puisque c'est dans les cafés qu'ils viennent généralement jouer la première fois. Et donc c'est un peu le tremplin avant de passer aux choses sérieuses pour certains. Et donc voilà, après, sur toute la France, enfin, même sur la région, je pense que chaque lieu a son identité propre. Donc on va trouver dans chaque lieu quelque chose qu'on vient chercher. Je pense, et puis voilà, c'est une espèce de culture underground, parce qu'on va pas avoir non plus ce qui se passe partout dans les grosses chaînes ou des trucs comme ça. Donc café culture égale passion.
Ouais, vous parlez tous de culture, de lien social, de vie du quartier, hein, Max, tu l'as déjà évoqué quand tu t'es présenté. Mais en fait, le statut café culture, le statut café concert, Camille, il n'existe pas.
On est bar. Après, on fait tous de la culture plus ou moins, parce que Enfin, la culture, on peut, ça peut être au sens large, la culture. Ça peut être la culture des produits que tu vas proposer à ta clientèle, la musique que tu vas passer, les groupes que tu vas faire jouer, les expos que tu vas mettre sur tes murs. Enfin, vraiment, la culture, c'est vraiment c'est un terme où tu mets tout ce que tu veux dedans, en fait.
Et du coup, vous observez pas forcément est-ce que vous observez un distinguo du point de vue des contraintes ou des aides que vous pouvez avoir d'un bar normal, basique, qui n'a pas de projet culturel ou de projet social, avec un bar qui est impliqué et qui a un projet, comme vous dites, passion, qui est cette surcouche en fait de projet sur son bar, sur son activité bar.
Wow. Les contraintes, on va peut-être en avoir plus parce qu'on va avoir plus de visites des autorités par rapport à tout ce qui est étude d'impact, voisinage qui se plaint, etc. Maintenant, les aides, je crois qu'on a tous plus ou moins les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, voire quasiment aucune. On peut parler du GIP pour ceux qui peuvent se le permettre. Un système mis en place pour les lieux afin de payer le groupe, en fait. C'est le territoire qui a une enveloppe définie. Et donc, selon le nombre de gens dans un groupe, on va avoir des réductions. Enfin, ça va être pris en charge par cette enveloppe, quoi.
C'est une aide pour salarier les groupes, et on y reviendra un peu plus tard.
Voilà, mais tous les bars ne peuvent pas se permettre de passer par là, en fait.
Ok, donc c'était une manière aussi de faire un petit point sur la définition du café-concert qui est aujourd'hui au cœur de vos projets, mais qui d'un point de vue purement, j'ai envie de dire législatif, n'est pas forcément pris en compte. Comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément plus d'aide et il y a tout autant de contraintes, voire un peu plus.
Ouais.
Marianne, peut-être toi, comment tu vois les cafés-concerts ?
J'étais en train d'y réfléchir en vous écoutant. Moi, je vois plusieurs choses. Je vois des choses positives et d'autres choses plutôt négatives. Dans les choses positives, je trouve que ce genre de lieu, ça permet facilement d'aller faire des concerts, en fait. On peut se pointer, aller se présenter dans un bar et dire « Salut, je fais ça ». Éventuellement laisser un CD, mais des fois, même moi, j'ai même pas eu la laisser de CD. Et voilà, j'ai pu jouer. Et c'est vrai que c'est génial de pouvoir se faire la main comme ça, quoi, de se faire une expérience dans la musique, quoi. Après, ce qui est un peu compliqué, je trouve, il y a plusieurs trucs que je trouve compliqués, c'est que ça pose un peu la question de mon côté, dans la distinction entre amateur et professionnel. Parce que du coup, comme vous disiez, souvent on n'est pas trop payé, c'est souvent au chapeau, ou il y a des accords des fois avec les bars selon s'il y a des aides ou pas. Mais pour les gens qui vont devenir pros ou qui vont être dans un entre-deux, ouais, je trouve que ça pose un peu une question sur c'est quoi ce truc, quoi. Il y a une espèce de gros flou, je trouve, un peu autant légal que entre nous, sur le statut qu'ont chaque partenaire, là, entre les gens qui tiennent les lieux et puis nous, du côté des musiciens, des musiciennes, qui est un peu spécial, quoi. Puis un rapport à l'argent qui est un petit peu space aussi, parce que du coup, c'est plus ou moins clair, hein. Y a des gens qui en parlent plus ou moins facilement. Y a des gens pour qui c'est d'évidence du bénévolat. Bon, puis après, moi, il y a aussi le fait que je sois une meuf, en tout cas identifiée comme une femme. Donc, je sens que ça rend les choses aussi un peu, des fois, complexes, selon les équipes, hein, bien sûr, qui sont en face. Après, c'est clair que moi, du coup, j'ai joué énormément. Si j'avais voulu, je pense que j'aurais pu jouer entre 2 et 3, voire 4 fois par semaine, si je le voulais, quoi, facilement. Il y a un type que j'avais rencontré ici à Laon qui était venu genre de Boston pour venir faire un concert à Laon. Bon, je lui ai dit, écoute, c'est bien de jouer à Laon, mais viens jouer aussi à Lille, du coup. Puis c'était la semaine suivante, il était dispo. J'ai dit, mais tu sais, à Lille, on s'est trouvé des concerts vraiment facilement, quoi. Et effectivement, on lui a trouvé 2 dates rapidement. Romain, tu t'en souviens, c'était le copain quand
on... Ouais.
Voilà, et ça, c'est vrai que c'est... Il était un peu surpris, quoi, quand je lui ai dit, si, on va te trouver 2 petits concerts tranquilles. Ça avait été chouette, quoi.
En tout cas, ton témoignage sur les conditions pour jouer, que ce soit financière ou autre, il représente bien le fait que c'est très varié, quoi. C'est chaque café-concert a son propre mode de fonctionnement, quoi. On pourra peut-être y revenir, mais sur le modèle économique qu'on va bientôt aborder, je pense.
Mode de fonctionnement et puis aussi une certaine éthique, quoi. Il y a vraiment des lieux pas fréquentables, je trouve, à Lille, comme il y a des lieux carrément corrects où on se sent vraiment accueilli, respecté dans ce qu'on fait. Et moi, je me suis sentie considérée comme une pro par certains et certaines, et puis par d'autres, pas du tout. Bon, en passant les détails de harcèlement, de paroles déplacées et de vraiment de choses plus qu'abusées, quoi, de choses graves. Et je pensais à ça parce que je me dis que ça peut être à la fois, ça a vraiment un revers, c'est que je me dis pour les gens qui débutent dans la musique et qui vont se lancer dans un premier café-concert, si jamais par exemple l'expérience est terrible, bah ça peut décourager. Et j'ai rencontré plusieurs musiciens, musiciennes qui font de la musique comme ça en off chez eux et qui retournent pas dans les bars suite à des expériences pourries, quoi.
La définition qu'on essaye de donner, hein, un petit peu par vos témoignages à tous du café-concert, elle est forcément floue quand on parle, tu vois, du CCL ou même de la Bulle Café où Seb disait c'est presque plus une salle qu'un café-concert. En effet, à quel moment tu bascules dans une salle? Est-ce que c'est au moment où justement tu as une entrée qui est payante et une billetterie et on n'est plus dans un modèle économique de café-concert? Et on va en reparler parce que Marianne, tu parlais du fait que la musique faisait venir les gens aussi pour faire fonctionner le concert et appâter les clients. Nous, c'était aussi ça faisait partie de notre réflexion. Quand on a préparé ce temps de discussion, alors c'est pas représentatif évidemment, mais Seb et Camille pourront nous, et puis Max, on n'en a pas encore parlé, pour nous expliquer comment ils voient les choses. On va vite se rendre compte que pour beaucoup, il y a plus de contraintes, en tout cas dans les gens qui sont ici autour du micro aujourd'hui, il y a plus de contraintes et de passion du coup qu'un modèle économique fonctionnel derrière, de faire de la musique. Mais juste avant, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le fait de pouvoir trouver très facilement des concerts à Lille grâce au Café Concert. Nico, toi de Abon Productions qui observe un petit peu puis tous vous pourrez réagir sur le paysage lillois et de la métropole depuis plusieurs années. C'est quoi un peu toi ta vision là-dessus sur la facilité de trouver et de proposer des concerts, l'offre qui est proposée? Enfin, Seb, on en parlait l'autre fois, disait que c'était un petit peu en déclin de son point de vue.
Ben moi, ça fait donc plus de 10 ans que je fais des concerts. Effectivement, il y avait plus de possibles il y a 10 ans que maintenant. C'est vrai que les histoires de voisinage sont bien rentrées dans l'histoire. C'est vrai qu'il y a moi, quand j'ai débuté les concerts, donc c'était il y a plus de 10 ans, hein, on pouvait tabasser dans les bars. Maintenant, tabasser au sens musical, évidemment. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. Il y a une espèce de jurisprudence qui s'est installée. Les gens peuvent voilà, les plaintes sont reçues. Donc ça, c'est vrai que c'est rentré et qu'il y a beaucoup de cafés qui ont jeté l'éponge, parce qu'effectivement, c'est pas possible de poursuivre dans ces conditions. Et du coup, effectivement, il y a moins de lieux pour jouer qu'à une époque. Ça, c'est clair. Et du coup, cette souplesse de programmation, peut-être qu'elle existe moins qu'à l'époque. Après, moi, c'est vrai que je programme moins dans les cafés-concerts qu'avant, quasi plus, à part chez Seb, quoi. Mais c'est vrai que je me souviens, effectivement, de groupes que j'avais fait jouer, qui ont réussi à faire sur un week-end de 3-4 bars sans aucun souci. Et c'est vrai que ça me paraît plus compliqué parce que je crois que vraiment cette histoire de voisinage, au-delà même du problème juridique ou de la paye, etc., ça a vraiment posé souci. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas qu'à Lille, hein, dans plein de villes en France, ça a été le cas. Donc, c'est moins possible. Après, voilà. Après, par rapport au statut des cafés-concerts, moi, je pense qu'il ajoute aussi à la, comment dire, à la confusion. Mais et par rapport aux programmations et aux possibilités de programmation, c'est qu'effectivement, dans les cafés-concerts, il y a quand même un panel de programmation extrêmement large, c'est-à-dire du cousin qui fait des reprises de je ne sais quel groupe à un groupe vraiment professionnel, et que voilà, comment dire ça, c'est-à-dire que c'est pas les programmations de cafés-concerts sont tellement larges en termes de propositions, ça peut être des professionnels, des amateurs, voilà, que c'est difficile d'y voir clair aussi. C'est-à-dire que entre un gratuit qui est possible quand c'est un groupe du coin qui fait son premier concert, un groupe de pros américains qui joue en café-concert par défaut finalement parce qu'il est pas, il joue pas dans une SMAC, c'est assez différent. Je pense que ça ajoute aussi à la difficulté de savoir comment on accueille les groupes, comment on les paye, si on peut faire l'entrée payante, gratuite, tout ça. Et ça, c'est pas forcément clair dans la tête des gens qui viennent voir le concert. Et je sais pas si je suis clair, mais en tout cas, c'est tellement large le café-concert en termes de programmation que selon la place aussi qu'on a, selon la possibilité de faire rentrée payante ou pas, selon les rentrées de bar, que c'est vrai que c'est difficile d'y voir clair quoi, par rapport à ça aussi.
Seb, quand on préparait l'émission, tu nous parlais de ton point de vue aussi d'un changement dans l'attitude du public. Alors, je ne sais pas s'il faut que ce soit un jugement de valeur, mais en tout cas sur la curiosité, la possibilité de se renseigner sur la programmation avant, avec Internet maintenant.
Moi sur notre expérience, nous on va parler du Café Disquaire, sur notre expérience au Café Disquaire, on sent quand même qu'il y a moins de curiosité chez les gens. Bertrand, mon associé, organise des concerts depuis 14 ans, je pense maintenant, bientôt 15 ans, il vieillit, au Café Disquaire. Et on sent bien qu'il y a une influence du public qui est moindre, qui va être beaucoup plus importante dès que c'est un artiste lillois. Donc là, on va être sur du copinage, les copains vont venir et compagnie. Que quand on va programmer, c'est vrai que je rejoins Nico, on a une programmation CAF qui est quand même très, très éclectique. Et on la veut aussi comme ça pour pouvoir faire jouer des choses qui ne passent nulle part. Et on sait que parfois, c'est des artistes et des concerts de niche où on va pas remplir le lieu, mais on a une jauge qui est petite au CAF, donc ça peut nous convenir, ça peut fonctionner. On repère quand même qu'il y a une présence moindre du public, que le public vient peut-être moins dans un esprit de découverte. Ce qui pouvait être fait, nous on fait des concerts avant, on faisait des concerts tous les samedis soirs à l'heure de l'apéro, on avait quand même un public qui pouvait venir sans même regarder la programmation, qui venait juste parce qu'il savait qu'il y avait l'apéro au CAF et voilà. Là, on retrouve quand même moins cet état d'esprit. Alors, est-ce que c'est lié au public? Est-ce que c'est lié à la matérialisation? Est-ce que, comme dit Nico, c'est parce qu'on a une programmation qui est peut-être trop éclectique et qui n'est pas repérante à des moments? Est-ce que les cafés-concerts ont aussi un peu de mal à se renouveler, à attirer un nouveau public? Je ne sais pas. Ça, c'est, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir que nous, on a au niveau du CAF. Hein, et voilà. Et après, je vous rejoins tous sur la difficulté aussi de faire certains artistes. Je sais que nous, on peut avoir un public qui va attendre certainement une scène un peu plus rock, comme dit Nico, entre guillemets, qui va tabasser un peu. Là, clairement, les limitations sonores et toutes les règles sur la musique amplifiée, qui, soyons clairs, hein, sont respectables. Hein. On n'est pas là pour faire chier les voisins continuellement non plus. Je pense qu'il faut essayer de faire ça en bonne entente. Mais c'est sûr que ça a limité aussi la possibilité de programmation de certains groupes, de certaines musiques, et peut-être que ça attire un peu moins. Enfin, je pense qu'actuellement, c'est beaucoup plus facile de faire un concert de folk, guitare-voix, je parle du CAF, parce qu'au niveau amplification, c'est vachement plus simple à gérer, ça va moins, je prends le mot Nico, tabasser, que de faire un groupe avec batterie, basse, guitare, et voilà. Et naturellement, je pense que c'est ce public qui recherche ça va se retourner vers d'autres lieux et peut-être moins vers le café-concert. Ben voilà, moi c'est vrai que nous on trouve qu'il y a un petit déclin. Je rejoins le côté passionné, nous on l'est, donc on continue à le faire, mais il y a une vraie réflexion aussi à porter économiquement là-dessus.
Justement, moi je rebondis sur ce que tu dis, Seb, sur le mot public que vous employez tous pour parler des personnes qui viennent, qui fréquentent vos lieux. On ne parle pas de clients ici, on parle bien de public. Ça dit quelque chose aussi et donc c'est lié à la question du modèle économique sur les lieux que vous avez, les contraintes aussi et des questions qui se posent là-dessus sur le fait que finalement on n'est pas sur un ce qui fait le sens pour vous ne fait pas la rentabilité du format café-concert.
Bah, comme Seb, moi je pense que ouais, clairement on a aussi il y a moins de monde qui vient pour les concerts. Les gens sont moins attirés par les concerts. Ça devient compliqué d'avoir une programmation concert. Moi je sais que par exemple j'ai arrêté de faire des concerts, de programmer des groupes qui viennent de l'extérieur de l'île. Parce que si tu veux, si c'est pas payé, au moins défrayer le groupe, t'as pas assez de monde, ou alors les gens, enfin si c'est pour se retrouver devant 5 personnes, parce que les gens sont pas assez curieux, parce que à la base ils sont venus pour boire des coups avec leurs copains, et puis voilà, et puis il y a même certaines personnes, limite en fait, ça les embête un peu d'avoir un concert, en fait ils étaient juste venus boire un coup, et puis plus, moi, c'est assez particulier parce que je suis un petit peu dans mon coin, je suis excentré de l'île. Donc, tu peux pas dire, bon, je m'en fous, je vais au café qui est à 200 mètres plus loin, puis c'est tout, quoi. Non, là, il n'y a pas forcément grand chose. Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est plein de petites contraintes comme ça entre les gens qui viennent moins, les problèmes qu'on peut avoir par rapport aux voisins. Et comme disait Seb, moi, j'ai par exemple, des fois, on peut avoir des soucis parce que les gens, soit parlent en dehors, soit parce que la musique, ben, en fonction des destins musicaux, ça peut se ressentir plus ou moins, parce que le son, c'est très compliqué, quoi, de gérer vraiment le son. On peut avoir un appel des voisins et on essaye de faire au mieux, de s'arranger au mieux. Donc, c'est cette problématique-là. Il faut savoir aussi que si derrière, toi, tu dis, bon, bah, là, j'ai mis un peu tout de côté, bah, je vais faire un des travaux d'isolation. Bah, derrière, en fait, tu dois aussi repayer ton étude acoustique parce que tu as fait des travaux d'isolation et que du coup, le son passe différemment. Donc, on estime que même si c'est censé moins impacter les voisins, tu dois repayer pour refaire une étude acoustique. Voilà, si tu dois changer du matériel, eh ben, tu faut croiser les doigts pour que le matériel soit exactement le même parce que quand tu as acoustique, tu as tel matos, tu peux même pas avoir du matériel en moins. J'ai déjà eu des copains qui ont eu le coup, ils se sont fait avoir parce qu'ils avaient un sub qu'ils avaient enlevé parce que bah, le truc était pété. Maintenant, il faut avoir exactement la même marque, exactement le même modèle. Si tu veux pouvoir continuer sans refaire encore une étude acoustique. Et après, ça prend du temps à chaque fois parce qu'il faut contacter les voisins, etc. Et voilà.
Et ça coûte 2000 balles. Hein. Faut quand même savoir, en fait, c'est 2000 euros hein, une étude acoustique. C'est pas rien, c'est un vrai budget. Hein.
Derrière aussi, qu'est-ce que tu fais les cafés-concerts, enfin, limite, même chaque concert peut être différent. Est-ce que tu fais entrée gratuite? Oui, entrée libre, entrée payante, ça peut être complètement différent. Donc ouais, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure de la rémunération, de comment ça se fonctionne entre chaque lieu. On peut peut-être rappeler que en fait, quand tu payes un artiste, c'est à peu près 150 euros par musicien, pas par groupe, mais bien par musicien. Donc, tu veux faire une soirée, tu prends deux groupes, on va dire guitare, basse, batterie, chant, donc ça fait 4 et 4, une petite moyenne, voilà, donc 150 fois 4 fois 2. Bon, ça, c'est déjà ce qu'il faudrait régler aux musiciens pour qu'ils puissent avoir leur cachet. Calcule tout ça, on comprend vite que ça devient très 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 compliqué, surtout pour des petits lieux comme les nôtres. C'est aussi normal de pouvoir que les musiciens puissent pas forcément gagner leur vie entre guillemets, mais qu'ils aient une certaine rémunération. Et après se pose la problématique de comment faire pour avoir une rémunération qui soit à peu près juste et qui puisse se faire, parce que de toute façon on a de la demande. Moi, comme je disais, je prends plus de groupes de l'extérieur de Lille, je prends que des groupes de Lille et je peux booker, y a pas de souci pour booker, quoi. Donc il y a une énorme demande, j'ai l'impression de moins en moins de lieux qui font des concerts par rapport à toutes ces problématiques là et donc faut qu'on trouve un juste milieu. Voilà, quoi. Après, ça fait 10 ans que je suis installé. Maintenant, c'est peut-être plus facile pour moi que pour aussi un café qui va commencer, quoi. Donc voilà. C'est énormément de problématiques, c'est énormément de choses à prendre en compte. Voilà. Et se pose vraiment la question de est-ce que ça vaut le coup de faire un concert? Entre les problèmes qu'on peut avoir, les risques d'amende, de fermeture administrative, pour être aux normes, machin, c'est compliqué, ça prend du temps.
Camille, est-ce que tu peux nous confirmer, nous donner un peu ta vision sur cette approche-là? Moi, naïvement, avec Juliette, on voulait confronter la variété de vos modèles économiques en se disant qu'en effet, le concert aurait logiquement une place, ramène des clients au bar et fait fonctionner le bar et on trouve un moyen de rémunérer. Alors ça, c'est encore une autre affaire, les musiciens, en tout cas, qui s'y retrouvent d'une manière ou d'une autre. Plus on en discute, plus on se rend compte que on se demande pourquoi vous faites encore des concerts dans vos bars, en fait.
Alors, déjà, moi, je vais rebondir sur le fait que les groupes ramènent du public. Alors, effectivement, les groupes ramènent du public. Maintenant, est-ce qu'ils fidélisent le public? Non. Moi, j'ai fait au tout début, pendant 3 ans, je faisais des concerts quasiment tout le temps. Et le peu de fois où j'avais pas de concert, les gens ne venaient pas. Donc, en fait, les gens viennent voir leur groupe. Et en fait, c'est un peu de la consommation. Moi, au fil du temps, j'avais un peu pris ça comme ça. C'est on consomme un concert, on s'en va et après, on va refaire d'autres concerts, mais on revient plus dans le lieu. Pour ma part, en tout cas, je ne pense pas que ça fidélise une clientèle. Et ça rebondit sur ce que disait Seb aussi tout à l'heure. C'est que avant, c'est vrai que moi je fais partie de ces gens-là qui allaient dans des lieux en sachant que je savais qu'il allait avoir un concert, je m'en foutais de savoir ce que c'était, je savais que ça allait être bien et j'y allais. Je découvrais des groupes, etc. Et on a perdu un peu ça. Surtout qu'en plus sur l'île, là je parle d'expérience aussi perso, je trouve qu'il y a une espèce de sécurisation où les gens ont du mal à bouger de leur quartier. Moi qui étais dans le vieux Lille, j'étais catégorisée quartier de bourgeois, donc on n'y va pas, ça va être cher, et puis c'est loin, etc. Des quartiers comme Fives où ça va être galère pour rentrer après, donc c'est vrai que ça va plus être une clientèle de quartier qui va venir chez Max. Et donc ça, c'était compliqué. Ensuite, après, faut dire que on est tous dehors la loi. En vrai, on va poser les choses. On est dehors la loi. La réglementation, donc déjà l'étude d'impact, où normalement le bar doit avoir son propre matos et le groupe ne ramène pas son matos parce que si c'est du matos extérieur à l'étude d'impact, on peut être pénalisé là-dessus. Normalement c'est 6 concerts par an, donc 6 concerts, c'est-à-dire que si tu fais 2 concerts dans la même soirée, il te reste plus que 4 concerts dans l'année. S'il y a quelqu'un qui est pro dans le groupe, tu dois faire un cachet pour tout le monde, donc 150 € par personne. Sinon tu peux détourner le truc en mettant des contrats amateurs où là tu n'es pas obligé de payer, donc après tu peux faire des factures ou des machins, mais il faut toujours justifier. Le black est interdit en France. Si tu mets une billetterie, cette billetterie, elle est taxée, donc tu dois la déclarer aussi. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui font que, en fait, oui, on peut parler de passion parce qu'on est un peu dehors la loi, mais on le fait quand même parce qu'on a envie. Maintenant, est-ce que ça rapporte? Je ne pense pas. Personnellement, moi j'ai fidélisé et commencé à faire du chiffre d'affaires à partir du moment où j'ai arrêté de faire des concerts dans mon bar, d'en faire moins. Donc, mais ça m'est propre. Je sais pas pour les autres ce qu'il en est pour vous, mais
au CAF on a un public qui est assez mixte. Donc oui, on va avoir un public qui va venir pour les concerts. Est-ce qu'il revient ou pas? Ça fait très longtemps qu'on est là aussi sur l'île, donc on a un public qui est aussi un peu qui est un public CAF. Maintenant. C'est vrai que nous, on a cette volonté au CAF d'être multiculturel et de voir la culture du bar dans son ensemble. Donc, on va avoir un public pour jouer aux fléchettes, un public pour venir voir le concert, un public pour regarder un match de foot. Parce que pour nous, ça fait partie de la culture du bar, Clément.
Mais je te disais, nous, on fait plus de monde et de chiffres avec un blind test ou un match de foot qu'avec un concert.
Mais ça, c'est clair. Et les coûts ne sont pas les mêmes, clairement. Clairement, moi je rejoins Marianne et je rejoins les collègues. Hein, les artistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, méritent d'être payés, défrayés. Le mot est compliqué. Après, je pense que c'est. Il ne faut pas confondre pour un bar. Moi, je vois souvent parfois des artistes confondre chiffre d'affaires et bénéfice. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai vendu. Pour, je vais dire, 500 balles de bière, que j'ai 500 balles dans la poche. Il y a quand même une réalité économique qui est bien autre. Que le bénéfice qu'on peut en retirer est bien moins que ça, et c'est extrêmement compliqué. Le modèle économique des bars, déjà en tant que tel, est compliqué, et bien plus compliqué qu'il y a 10 ou 15 ans. On est quand même dans un secteur, qui n'est pas très, très en forme depuis longtemps. Donc voilà. Donc le modèle économique est compliqué. Bien sûr que c'est plus rentable de faire, pour moi, de faire des événements qui ne coûtent rien, parce que ça va attirer un autre public et qui va peut-être beaucoup plus consommer. Nous, je sais qu'au CAF, on a heureusement et malheureusement un public très attentif quand on fait du concert, donc un public qui ne va pas consommer des masses, qui va plus regarder le concert. Et la disposition du lieu fait que quand tu regardes le concert, tu es devant le bar. On a déjà fait des concerts avec quasiment 0 chiffre de bar. Donc, où les gens vont consommer un peu avant, un peu après, s'ils ne se barrent pas direct, parce qu'on fait les concerts assez tôt. Donc, la rentabilité n'est pas là. Moi, je répète, je pense qu'ouvrir un café-concert, comme nos lieux, des petits cafés-concerts, soit c'est de la passion, si tu veux le faire pour l'argent, tu t'es complètement trompé. Il y a un truc qui déconne chez toi, quoi. Mais et ça, c'est une réalité. Après, je pense aussi qu'il est important de rappeler aux artistes que le café-concert, ce qui est un café-concert, à des moments où on a parfois des demandes d'artistes, où tu dis, mais c'est aberrant, enfin, la demande financière, tu dis, mais ça, c'est quelque chose qui devrait se faire en SMAC, qui devrait se faire dans d'autres lieux qui sont faits pour ça. Alors après, est-ce que la programmation des SMAC est accessible à tout groupe? Je ne sais pas, c'est un autre débat, mais je ne me permettrai pas d'intervenir là-dessus. Mais je pense que parfois, on se trompe un peu sur ce qu'est réellement un café-concert et ce que peut faire un café-concert.
Et du coup, Marianne, peut-être tu peux en profiter pour parce que je trouve ça, c'est aussi un point intéressant qu'on n'a pas encore abordé. On va dégraisser un minimum, mais après on reviendra sur tu expliquais toutes les contraintes toi et Camille et Max que vous avez en fait en vous écoutant. En fait, j'entendais les contraintes de salle quoi. Il vous faut votre système son, votre étude acoustique, votre matériel, la billetterie à déclarer. En fait, vous êtes, enfin c'est ce qu'on demande à une SMAC. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis et le gap entre un circuit un petit peu plus institutionnalisé et professionnel, entre guillemets, vous êtes quand même, enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, vous êtes quand même une première scène pour un projet de groupe, quoi. On ne peut pas arriver demain faire une scène privée ou une scène subventionnée si on n'a pas d'expérience de scène et où faire cette expérience de scène ailleurs que dans les cafés-concerts. Marianne, toi, avec ton expérience d'artiste, tu t'en penses quoi ?
Ben, ouais, moi, clairement, j'ai fait mes premiers pas dans les bars et mes premiers pas, j'ai un peu 40 ans, quoi. C'est-à-dire que je suis encore dans les bars. Après, peut-être qu'il y a des groupes ou des solistes qui ont d'autres expériences et qui passent par des tremplins et qui ont des musiques qui passent mieux pour passer directement comme s'ils allaient sauter des marches et puis aller plus vite dans d'autres lieux plus, entre guillemets, hein, professionnels qui peuvent payer des cachets, des choses comme ça. Bon, c'est pas mon expérience à moi. Et puis, je voulais rebondir aussi sur l'utilisation du mot passion. En fait, je trouve que c'est un peu piège. Ça peut être un peu un piège, cette idée de raccrocher tout ça à la passion. Alors, évidemment, je pense qu'on a ça en commun. Là, quand je vous écoute, puis de toute façon, je sais bien, je suis passée dans vos différents lieux pour ceux qui tiennent des lieux. Après, c'est vrai que j'aime bien aussi la franchise de dire que oui, on a un rapport, comme vous parliez de modèle économique, on a aussi un rapport économique. Nous, en tant qu'artistes, on a tout le temps de répétition, de préparation, l'achat de matériel. C'est des réalités comptables, entre guillemets. Hein. Moi, vous parliez de l'histoire de l'amplification. Alors là, dans vos lieux, vous m'avez tous accueilli avec des amplifications qui étaient sur place. Il y a beaucoup, beaucoup de bars où c'est moi qui ramène mon matos avec un temps d'installation, chargement, déchargement que je fais souvent seule. Toute la gestion de la com, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, etc., le mailing. Et puis ensuite, effectivement, on ramène aussi des publics qu'on s'est façonnés au fur et à mesure du temps. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ce que j'apprécie dans les lieux, en fait, c'est le fait d'être franc et de se dire, ouais, bon, on va avoir un rapport économique aussi. Ça ne veut pas dire que ça zappe la passion, mais c'est juste d'être au clair là-dessus. Et que les gens, moi qui m'accueillent, moi ce que j'apprécie, c'est direct quand on me dit comment ça fonctionne. Et que je n'ai pas à aller gratter l'information ou en fin de concert attendre un peu en chien une fois que j'ai rempli la voiture et me dire, bon, il va me payer, il ne va pas me payer. Le chapeau, comment on se le dispatche? Est-ce que le fait que j'ai blindé le bar, je sais qu'il y a des lieux qui m'ont accueilli en me disant, ben voilà, nous on a fait autant ce soir, et ben on t'avait dit, on te file tel pourcentage sur ce qu'on s'est fait. Enfin, voilà, après, il y a des fois, c'est des sortes de prix libres. Parfois, c'est juste à manger correctement.
On retrouve en fait cette fameuse zone grise où ouais. Peut-être que certains qui sont un peu moins passionnés par la musique que les gens ici autour du micro exploitent aussi. Hein, c'est-à-dire qu'ils vous mettent à dispo une scène. Ils peuvent mettre à dispo une scène tout en devant gérer et prioriser leur business, leur bar, quoi.
Peut-être discutons maintenant de la partie Covid en plusieurs épisodes maintenant. Le premier épisode confinement, ce deuxième, le creux aussi de reprise avec des grands guillemets, j'imagine bien, entre ces deux périodes. Peut-être savoir comment qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Je sais que Seb, vous, au Café Disquaire, vous continuez de vendre un peu, de faire du click and collect de produits, même si évidemment l'activité de concert est en pause. Est-ce que peut-être tu veux dire un mot là-dessus sur la période, toi, aujourd'hui,
Bah, je pense que comme pour tout le secteur, hein, d'hôtellerie-restauration, je pense que c'est, faut dire clairement, c'est la merde. Hein, donc voilà. Par volonté, Bertrand, mon associé et moi, enfin, voilà, on ne souhaite pas non plus être que dans la critique des décisions d'État concernant nos fermetures. Voilà, on est fermé, c'est un constat, on est fermé, c'est bien sûr compliqué économiquement. Il y a des aides qui depuis le début de ces depuis mars n'étaient pas suffisantes clairement. Donc je pense que ça va être extrêmement compliqué pour beaucoup de commerçants de s'en sortir. Je pense qu'on est tous assez clairs là-dessus. C'est pas cette année qu'on va se planter. C'est qu'on aura le retour de toutes les charges donc l'année prochaine et potentiellement à la réouverture où je pense qu'il va y avoir beaucoup malheureusement de fermetures. Donc non, ouais, enfin, je sais pas pour les collègues, hein, mais je pense que c'est, on peut juste dire que c'est la merde. L'activité concert, elle est pas là de se refaire. Je pense que Nico doit pas travailler beaucoup actuellement, mon pauvre Nico. Que nous, à la bulle, on a essayé de faire du concert, de continuer les concerts entre les deux confinements sur un mode masqué, sur un mode cabaret, assis, en respectant les protocoles. C'est vraiment pas simple. Que ce soit pour le lieu, pour les artistes, et pour le public. Donc c'est, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui va être extrêmement compliqué sur notre activité, à tous. Je sais pas trop comment on va se sortir de tout ça. Max, sinon, ça va nickel.
Max, toi, tu l'as vécu comment? C'est une question un peu bête, mais alors peut-être plutôt si tu as réussi à te mettre dans l'action pour la sauvegarde de ton bar, qu'est-ce que tu as été chercher comme aide? Est-ce que tu en as trouvé comme solution, même au-delà des aides financières?
Alors du coup, moi, j'avais essayé de continuer les concerts déjà pendant la période. Après le premier confinement. Alors, par contre, du coup, c'était en mode, bon, écoutez, on peut programmer des concerts, par contre. Alors, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura du monde? En gros, moi, j'avais 4 tables. Donc, je disais, comprenez que c'est un peu compliqué. J'ai aucune idée de comment, est-ce qu'il y aura du public? Est-ce qu'il y aura pas de public? Comment ça va se passer? Machin. Donc là, on était vraiment dans le flou là-dessus. On a quand même eu des bonnes surprises parce que ça a ramené du monde quand même, mais alors du coup pour expliquer aux gens que bah en fait les gars, il y a un virus, non vous pouvez pas rester debout comme ça, non vous pouvez pas, enfin là, dire aux gens bah non, là les tables elles sont prises, c'est pas, enfin non vous pouvez pas vous regrouper là, c'était de la gestion de clientèle un peu compliquée. Et on était deg, donc on a essayé de trouver des solutions pour faire la projection à l'extérieur et tout. On n'a pas pu parce que bah, on n'a pas eu le temps de mettre ça en place. Voilà, là, bah, moi, j'ai essayé de mettre en place aussi du click and collect. J'ai commencé hier. Donc voilà, ça a ramené un petit peu le monde. C'est déjà ça. On attend les aides. Clairement, pour le moment, on vit sur les prêts qu'on a pu faire. Et après... voilà, bah il y a les sous qui tombent, et puis on attend les aides grandement pour pouvoir essayer de se débrouiller et faire pour survivre, clairement, survivre à tout ça. Moi, j'estime que j'ai de la chance, j'ai pas trop de charges, mais ouais, pour pas mal de collègues, je suis très très inquiet quoi pour la profession, et puis après tout ce qui est culturel quoi derrière. Ça va être très 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 compliqué. Je pense que on va quand même essayer de reprogrammer dès qu'on pourra. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on pourra réouvrir. Je sais pas comment ça va se passer du tout. Pour le moment, je programme pas. J'attends d'avoir un minimum de vision. Mais voilà quoi. En tout cas, on essaye de rien lâcher. On essaye de garder, de positiver et puis de toujours trouver comment on peut faire pour reprendre un semblant d'activité comme avant, de faire vivre tout ça quoi. On veut pas que ça reste figé. On se pose beaucoup de questions sur l'avenir aussi. D'un autre côté pareil, est-ce que sur les voisins, quand d'un seul coup les gens vont revenir, d'un seul coup il y a du bruit, c'était mieux avant quand même, et du coup avoir encore plus d'appels des services de police, etc. Donc, on a beaucoup de questionnements sur cette reprise qui va arriver. On se pose la question aussi sur, parce que mine de rien, là, ça va faire, on va arriver à l'année, quoi. Ça va continuer encore combien de temps? Est-ce que il y a une génération là qui le café concert, le café, aller au café, est-ce qu'ils vont connaître vraiment ça? Voilà quoi, c'est.
Ils perdent un peu l'habitude de revenir dans les cafés, quoi.
Ouais, voilà.
Et Seb, toi, au café Discard et peut-être aussi pour la bulle, mais tu peux nous détailler un petit peu les aides que vous avez été chercher. Est-ce que vous avez réduit votre staff en activité partielle et vous-même, d'ailleurs, j'imagine. Et est-ce que vous avez été chercher des prêts?
Alors nous on a, avec Bertrand, on est tous les deux indépendants, on a trois salariés. Nos trois salariés sont au chômage partiel depuis mars. À savoir que le chômage partiel, bon, ça nous coûte un minimum quand même, qu'on avance les salaires. Hein, donc, il faut attendre le remboursement de l'État, qui n'est pas toujours très, très rapide. Mais bon, en tous les cas, on l'a. Voilà. Donc, pour les garçons, pour l'instant, on arrive à tout du moins à préserver l'emploi en espérant pouvoir ouvrir très vite. Bertrand et moi, on est tous les deux indépendants, donc pas de salaire. Donc, voilà, nous, on se verse ce qu'on peut par rapport à la trésorerie existante et aux aides. Concernant les aides, bon, on a eu cette aide des 1500 euros, là. Je pense qu'à peu près tous les collègues peuvent avoir. Alors, c'est 1500 euros par lieu, hein, faut pas, enfin, par société, il ne faut pas penser que c'est par indépendant. Donc, bah, nous, on est deux, malheureusement. Donc, voilà. Ça divise un peu nos revenus. Et ces 1500 euros-là, ce n'est pas du salaire, parce que tu gardes quand même des frais fixes, hein, qui sont de l'assurance, des plein de choses. On a toujours des frais fixes. Hein. Et on a parfois tous des prêts aussi. Donc, voilà, il y a des choses à payer. On a fait le PGE, le prêt garanti par l'État, qui est.
Alors, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que tu expliquais sur le prêt garanti par l'État, comment ça s'était passé et quelles sont les conditions?
Prêt garanti par l'État, c'est nous on l'a fait en avril, je pense, assez rapidement. Alors ça correspond, tu peux faire une demande qui correspond à ton chiffre d'affaires. Alors voilà, enfin c'est un calcul par rapport au chiffre d'affaires, donc tu as un montant maximum que tu gères avec ta banque. Alors après, est-ce que ta banque est cool, est-ce que ta banque est réactive ou pas? Donc, malheureusement on n'a pas eu une banque très réactive, donc ça a quasiment mis 2 mois. Donc voilà, pour d'autres, ça a mis 4 jours. Hein, donc voilà. Donc ce prêt-là, c'est un prêt quasiment à taux zéro. Je pense que c'est 0,25, qui est quasiment du zéro. Hein, donc voilà. Remboursable logiquement sous un an ou deux, si je me trompe pas, qui serait potentiellement décalé. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que ces prêts seront remboursables, on va dire, si on est sur le délai des 1 an, dans les 1 an, 0,25%. Si dans les 1 an, on n'est pas en capacité de rembourser le prêt, il est renégocié avec la banque, avec notre banque, au taux du moment. Donc, on peut tous se retrouver avec des prêts, avec des taux beaucoup plus importants. Et c'est des prêts de trésorerie. Les prêts de trésorerie, ça veut dire qu'on a juste emprunté de l'argent pour vivre, on n'a pas gagné d'argent derrière. Donc là, ça veut dire qu'on sait tous, potentiellement, tous ceux qui l'ont fait, se rajouter des charges. C'est là où mon inquiétude est clairement, et je pense qu'au niveau du secteur, on est assez conscient de ça, c'est que bah, quand on va tous devoir commencer à rembourser nos petits prêts, et ben, ça va faire mal parce qu'on va se rajouter des charges de malade. Donc voilà, l'arrêté est là. Il faut savoir en plus que quand on a fait les prêts, ben, on nous avait dit, nous, notre banque, c'était un peu le fonctionnement, c'est ben, prévoyez jusque juin, parce qu'on n'avait pas prévu que ça durerait aussi longtemps. Ben, là, on est au mois de décembre, enfin, on est bientôt au mois de décembre, donc ce n'est pas du tout les mêmes montants, hein, de fonctionnement. Donc voilà, mais le prêt est là. Après, on l'a fait. Je ne sais pas comment on gérera ça, comment on le paiera. Je sais que l'État réfléchit un peu à ça. Je pense qu'ils sont aussi conscients de cette réalité.
Oui, parce que du coup, vous êtes parti sur un engagement d'un an à taux zéro, hein, c'est ça, à peu près?
Ouais, mais qui est décalable. Je pense que décalable d'un an, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, les collègues maîtrisent peut-être plus.
Sinon, c'est compliqué à remporter vu que la crise se prolonge, quoi.
C'est ça. Et voilà. Bon, maintenant, les aides vont être augmentées. L'aide des 1500 euros passerait pour notre secteur à maximum 10 000 euros. Donc là, on est quand même sur une économie différente, je pense, pour nos petits lieux où on rentre quand même peut-être plus sur quelque chose où on va arrêter de perdre de l'argent tous les mois. Parce que je ne sais pas pour les collègues, nous, on a quand même des frais qui sont importants. Enfin, qui sont importants, ça va encore. Hein, mais donc, on a perdu de l'argent tous les mois malgré l'aide des 1500 euros. L'aide des 10 000 euros, est-ce qu'on va arrêter de perdre de l'argent, ce qui nous permettra de pérenniser le lieu? Voilà, la réalité est là.
Camille, toi, est-ce que tu as vu autour de toi des patrons de bar qui galèrent ou qui inventent des choses pour s'en sortir et même au niveau national, vu que tu es en relation, enfin, tu es impliqué dans Culture Barbare, comment ça se passe globalement? J'imagine que le tableau n'est pas tout rose.
Non, bah, c'est ce que disent Seb et Max, en fait. C'est des gens s'organisent, donc ils font des click and collect. Après, selon les lieux, bah, ils vont fermer et rien pouvoir faire d'autre. Ou, voilà, quoi. Après. Ah, tout a été dit là. C'est, on parle de 30% de lieux qui fermeraient définitivement là. Les chiffres, c'était ça, 30 à 40%. Donc ça va faire mal.
Ça va arriver, mais dans un an. Quoi.
Oui, ça va avoir des répercussions sur le moyen, voire le long terme.
Voilà, c'est ça.
Ah, ouais, tout à fait. Il faudra voir comment on peut réouvrir. Je pense que ce qui est compliqué aussi pour les collègues et nous, c'est cette absence de perspective et de ne pas savoir vraiment comment on va pouvoir travailler. Il faut être conscient que... et là, je vais rejoindre Marianne. Il y a café-concert et café-concert. Il y a café-café. Il y a respect des protocoles et respect des protocoles sanitaires. Je pense que tout le monde, malheureusement, et je parlais de ne pas respecter, réouvrir à moitié comme on a pu le faire, ça n'a pas été pour tous, pour certains. Ça a permis de faire un chiffre d'affaires... correct. Pour d'autres, c'était une grosse perte de chiffre d'affaires en étant réouvert. Donc, il y a cette question-là aussi d'une potentielle réouverture, je vais dire en janvier, février, parce que c'est un peu ce qui est discuté, hein, mais de réouverture comment? En rebossant avec un protocole sanitaire qui est très, très compliqué à mettre en place, et je rejoins Max qui est pas simple, hein, on est patron de bar, on devient hygiéniste, papa et flic. Ça commence à faire beaucoup de casquettes. Et avec en plus une capacité de travail qui est bien moindre parce qu'on perd beaucoup de clientèle importante puisqu'on est limité en place. Et ce qui est normal, je répète, hein, le protocole sanitaire, moi je ne le remets pas en cause, je l'entends. Mais la réalité financière du chiffre d'affaires, et là aussi, c'est que réouvrir à moitié ou à un quart, ben, ton chiffre d'affaires, il n'est pas bon, quoi. Donc, et en plus, avec un public qui, est-ce qu'il va réinvestir les lieux? Est-ce qu'il va ressortir? Est-ce qu'il va, malgré cette pandémie, accepter de rebouger, d'aller dans les bars, d'aller dans les restaurants? Je pense que c'est pas garanti. On parle beaucoup de ceux qui y vont et qui en abusent. Moi, je pense aussi qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'y vont plus dans les bars pour l'instant, et enfin, qui n'iraient pas, même si on était réouvert, parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui ont peur de cette saloperie. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une réalité qui est pas très... Enfin, la réouverture va pas être si simple, quoi. Moi, je pense pas que la réouverture des lieux va être magique et ouh, ça y est, c'est la fête. Si, ça va l'être un minimum, mais ça va pas régler le problème. C'est sur la durée qu'il faudra régler le problème. Ça va prendre du temps.
Les modes de consommation, ils ont changé avec le confinement aussi. Les gens se retrouvent plus chez eux ou quand il fait beau à l'extérieur, et ils n'ont plus envie forcément d'être enfermés dans des lieux avec des protocoles à respecter à la ligne, parce que du coup, c'est les flics vraiment là-dessus. Et donc voilà quoi. Donc les gens, ils préfèrent rester entre eux, un petit comité, et pas forcément aller dans des bars, quoi, ou même dans les restaurants.
Pour une reprise, dans les perspectives aussi qui se dessinent, il y a vraiment l'idée que tout le monde devrait jouer le jeu, que ce soit évidemment les cafés-concerts, mais aussi les publics et les artistes, les producteurs aussi, que tout le monde s'y mette, que ce soit une synergie commune, c'est ce que vous dites un peu là tous, toutes.
Bah, de toute façon, il va falloir, parce que ça a été évoqué tout à l'heure. Là, déjà, avant le Covid, on avait des problèmes de voisinage. Là, les voisins, ils se sont retrouvés pendant 6 mois, 1 an, sans bruit, quasiment, sans gens qui fument leur clope devant, qui parlent fort, etc., sans musique dans les bars qui résonnent dans les immeubles, etc. Et du jour au lendemain, si on reprend ça, bah forcément ça va faire une espèce de choc auditif pour eux, et on risque d'aller encore dans des répressions comme on a eu à une certaine période sur l'île, où des descentes de flics c'était quasiment tous les jours, et avec les amendes qui pleuvent alors qu'on est déjà bien saigné, quoi, en fait.
Peut-être un soutien aussi des institutions dans ce que tu dis,
ah, bah, c'est ce qu'on
a, la politique nocturne.
C'est ce qu'on est en train d'essayer de travailler avec Barbare, là, et bah, pour Lille, avec la mairie, quoi. On est en train d'essayer de travailler le après, justement, pour essayer de travailler en bonne intelligence, et en prenant en compte tout cet environnement-là. Et donc, voilà. Mais on verra bien, là, pour le moment. On est un peu au point mort, vu qu'il ne se passe rien, quoi. Nous, le constat qu'on a fait, c'est qu'on avait été un peu abandonnés par les syndicats, déjà, de base, les bars, hein, j'entends. Et que du coup il fallait qu'on fédère un peu plus les petits cafés, les petits bars culture, etc., pour qu'on puisse avoir plus de poids à apporter. Les états généraux, ça va servir aussi à ça, c'est apporter peut-être pas des solutions, mais au moins des préconisations pour essayer de faire avancer les choses. Et c'est vrai que plus on est nombreux, et plus ça permet aussi que les hautes autorités disent, ah bah tiens, peut-être qu'il y a des choses à dire aussi par là-bas, parce que si on n'est que quatre à parler, ils s'en foutent, quoi. C'est vrai que là, pour le coup, c'est faut vraiment qu'on se mobilise pour pouvoir se faire entendre, mais il ne faut pas se mobiliser n'importe comment. Il faut qu'on apporte des choses, parce que si on arrive juste en faisant les wawans, ça ne sert à rien, quoi. Donc là, c'est ce qu'on essaie de faire. Les états généraux, ça va servir aussi à ça. C'est pour ça qu'on organise plein de débats sur plein de sujets, parce que tout ça va être rapporté à l'Assemblée nationale. Donc voilà, quoi. Maintenant, nous, avec là, on a repris contact avec la mairie, avec la préfecture. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est le point mort. Je veux dire, les bars sont fermés. Même eux, ils savent pas ce qui va se passer demain, puisque c'est même pas eux qui gèrent. Je veux dire, les mairies, elles ont plus autorité. Si elles ont pu avoir un peu d'autorité à un moment, là, maintenant, c'est là-haut que ça se passe. Donc,
Max, un mot de conclusion. Est-ce que tu vas continuer à faire des concerts quand tout sera revenu à la normale?
Bah, carrément. Hein. Bah, carrément. Là, enfin, j'étais un petit peu très alarmiste sur le, enfin, tout ce que j'ai pu dire avant, mais clairement, ouais, enfin, nous, on attend que ça. Hein. On attend que ça de rentrer, enfin, de reprendre et de se retrouver, d'avoir cette ambiance, cette chaleur de encore plus, de se retrouver à faire la bise aux copains, ça, bon, encore le temps avant d'y arriver, mais. Mais voilà quoi. Même si ce sera pas top top, moi je sais que je vais, si je peux, j'essaierai de trouver des solutions pour faire au mieux, pour reprogrammer des choses, pour faire des choses, pour bouger, pour voilà quoi. On va pas se laisser bouffer par ça. On va continuer. Ça nous demandera beaucoup d'énergie, pas mal de temps. Mais voilà quoi. On a envie. Je pense qu'on a tous envie de ça quoi.
Nico, toi, ton point de vue, tu crois que pour les cafés qui, on l'espère, vont surfer sur la vague Covid et survivre, entre guillemets, est-ce que les concerts ont encore leur place dans les cafés? Parce qu'on a quand même dépeint un portrait assez, assez noir d'un point de vue de la survie économique et de la faisabilité de concerts dans les bars.
Oui, mais je pense qu'il y aura évidemment des concerts dans les bars à venir. Après, moi, par rapport à tout ce qui est dit, et je parlais de confusion tout à l'heure, je pense que ce qui peut être, et si je le souhaite pour vous, hein, qui êtes patron de lieu, c'est, ou patronne, pardon, il y a un statut à trouver clairement, parce que, je disais, en fait, dans les programmations, dans les bars et cafés-concerts, il y a quand même des choses assez illisibles, en fait, en tant que programmateur. Parce qu'on parlait de fidélisation aussi de public, moi, c'est vraiment ce que j'ai. Pour avoir travaillé régulièrement dans un bar il y a très longtemps, on a réussi à fidéliser des gens. Et bizarrement, contrairement à ce que disait Max, quand on faisait jouer des groupes locaux, on n'avait pas grand monde en fait. Et que les gens venaient parce que justement, c'est une programmation un peu différente, un peu suivie, etc. Donc c'est vrai que si. Tout ça pour dire que je pense que dans les cafés-concerts, il y aura toujours des concerts, mais je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus à faire. Alors je ne dis pas qu'il faudrait un programmateur par café, hein, c'est pas ce que je dis, mais je trouve qu'il y a des choses. Et pour dire ce que, par rapport à ce que disait Marianne aussi, c'est vrai qu'il y a des lieux où moi je ne programmerais pas, des lieux où je programmerais, et je pense que même en tant que public, il y a une confusion entre les gens qui vont juste boire une bière en écoutant une animation musicale et un lieu qui cherche à faire une vraie programmation. Et je me dis que si de tout ça pouvait sortir une espèce de statut, je ne sais pas comment dire, café-concert identifié avec des aides qui ont. En disant, bah, nous, on est café-concert, donc on accueille des professionnels, donc on les paye en tant que là. Alors, c'est un peu utopique, hein. Mais je pense que ça, en plus, ça enlèvera un peu de la confusion par rapport à tout ça. Donc, et peut-être que justement, on pourrait refidéliser des gens parce qu'en tant que café-concert identifié, on a une prog qui est cohérente, qui est un peu suivie, qui est curieuse, etc.
Donc, ça serait reconnaître aussi cette passion qu'ils instillent dans leur projet de bar, en fait.
Parce que, effectivement, d'ailleurs, à la bulle, clairement, il y a une fidélisation du public parce que c'est une prog qui est identifiée comme étant une prog. On peut y aller sans connaître le groupe, hein, je veux dire. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si c'est possible, hein, mais je me dis que. Voilà, j'ai. Peut-être qu'il faut préciser un peu les choses par rapport à ça. Je sais pas. Moi, je suis pas patron de bar. Hein.
Bah, Camille, tu as entendu à Culture Barbare et ça rejoint aussi des choses qui sont des travaux qui sont très récents, je pense, sur justement la reconnaissance des cafés culturels, des cafés-concerts avec le GIP. On n'en a pas encore beaucoup parlé, mais avec Haute Fidélité, on présentera ce dispositif qui permet de salarier des musiciens tout à fait légalement dans un café-concert avec des aides financières. Il y a aussi beaucoup de travaux sur la reconnaissance et la définition de ce qu'est un artiste amateur par rapport à un professionnel. Et il y a beaucoup de travaux qui sont en cours là-dessus et on espère, comme tu le dis Nico, qu'il y a peut-être un statut à trouver pour mettre en avant ces projets culturels dans les bars.
Ouais, parce que dans les bars, ce n'est pas forcément toujours des premiers pas, quoi. Moi, j'ai fait jouer beaucoup de professionnels dans les bars, donc c'est pas juste un premier concert, c'est aussi des gens qui doivent être payés dans les règles de l'art, en fait. Je sais bien que c'est pas possible, hein. Je sais bien, actuellement, c'est pas possible. Mais voilà, il y a beaucoup de gens dans la tête des gens, c'est jouer dans un café-concert, ça veut dire que t'es amateur, ça veut dire que c'est un de tes premiers concerts, ça veut dire que d'une certaine façon, bon, c'est normal si t'es pas rémunéré à hauteur, quoi.
Pas forcément. Mais après, c'est aussi pour ça qu'on bosse avec des associations. Parce que ouais. Généralement, les assos peuvent prendre la billetterie et donc ça permet de rémunérer les artistes aussi. Mmh,
tout à fait. Mais clairement, à voir.
Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a une billetterie et des fois non, alors que le groupe qu'on fait jouer est un groupe potentiellement professionnel et du coup, c'est normal qu'il y ait une billetterie. Donc, il y a aussi tout ça, tout ça peut être confus dans la tête des gens aussi.
Ça vaudrait peut-être le coup de clarifier ça aussi régulièrement en diffusant ces informations-là, en faisant un peu de la vulgarisation sur les différents statuts et en parlant davantage. Dans une autre mesure, nous, on s'était dit entre plusieurs musiciens et musiciennes, on voulait se rencontrer pour se dire tous et toutes combien on était payé par et accueilli, comment on était accueilli et comment on était payé ou pas par les différents lieux, pour éviter aussi qu'il y ait des abus et puis aussi pour normaliser et respecter aussi les gens qui vivent vraiment exclusivement des revenus de la musique. Parce qu'on se disait, quand certains sont amateurs et ont d'autres revenus et s'amusent à faire ça le dimanche, et c'est très chouette, ça peut être un très très haut niveau, c'est un peu différent quand même de la personne qui a tout lâché et qui décide de vraiment vivre de la musique. Et comment protéger aussi ce statut-là et aussi donner envie aux gens qui débutent dans l'amateurisme d'oser se professionnaliser pour aller plus loin, enfin pas forcément plus loin d'ailleurs, mais le vivre autrement, quoi.
On note bien le besoin de visibilité du statut de café-concert, mais aussi au sein de ce statut de son projet, quoi. En effet, il y en a qui vont accueillir de l'amateur local, de l'autre qui vont faire des professionnels avec une billetterie, etc., etc.
Et merci à tous d'avoir pris le temps de venir discuter des cafés-concerts qui sont, on l'a vu, des lieux aussi singuliers que nécessaires dans le secteur musical pour les publics, pour les artistes et pour ceux qui portent ces projets et puis à demain pour exercer du coup ce droit à la fête qui est si, si précieux. Merci à tous et toutes.
Merci
à vous.
Merci à vous.
Merci.